Chapitre 8. Ardis. Daeman dormit bien et rêva de femme. Il trouvait amusant, sinon étrange, de ne rêver de femme que lorsqu'il dormait seul. C'est comme s'il avait toujours besoin de sentir près de lui une chair féminine et que son subconscient la lui fournissait quand il n'avait pas pu s'en procurer durant la journée. Lorsqu'il se réveilla, à une heure assez tardive, dans sa confortable chambre du château d'Ardis, son rêve se dissipa bien vite, mais il en resta suffisamment de bribes, sans parler de son érection matinale, pour qu'il se remémore vaguement le corps d'Ada ou d'une femme fort semblable à elle, chaude, pâle, parfumée, avec des fesses bien pleines, des seins bien ronds et des cuisses bien fermes. Daeman était impatient d'entamer le week-end et en ce splendide matin, il était sûr de connaître le succès dans sa conquête. Plus tard, douché, rasé et impeccablement vêtu d'une tenue qu'il jugeait campagnarde et décontractée, pantalon de coton à rayures blanc et bleu, manteau de serge, veste pastel, chemise de soie blanche, cravate à épingles en rubis, avec en guise d'accessoire sa canne préférée et des chaussures de marche en cuir noir un peu plus robustes que ses mocassins habituels. Il prit son petit déjeuner dans la serre inondée de soleil, où il apprit, à sa grande satisfaction, qu'Anna et le dénommé Arman étaient partis tôt ce matin. En prévision du moulage de ce soir, expliqua Ada de fort énigmatique façon, et Daeman ne prit pas la peine de demander des détails. Il était ravi que l'autre ait pris congé. S'abstenant d'aborder des sujets stupides tels que les livres ou les vaisseaux spatiaux, Ada passa la fin de la matinée en sa compagnie, lui servant de guide et lui faisant découvrir les multiples ailes et corridors d'Ardis, ses caves à vin, ses passages secrets et ses antiques greniers. Il se rappelait avoir eu droit à ce genre de tour du propriétaire lors de sa première visite, une Ada adolescente et couverte de taches de rousseur l'ayant précédée sur une échelle branlante pour gagner la plateforme à écumeur du toit. Daeman, toujours prêt à saisir ce genre d'occasion, avait eu droit à un aperçu de paradis féminin sous sa jupe plissée lorsqu'elle avait gravi l'échelle. Il se rappelait comme si c'était hier les cuisses laiteuses et les ombres tentatrices. Ce matin-là, ils empruntèrent la même échelle pour atteindre la même plateforme, mais Ada l'invita d'un geste à passer le premier, accueillant par un sourire ses démonstrations de politesse, un sourire suggérant que, contrairement à ce qu'il pensait, elle avait parfaitement compris ce qui s'était passé 10 ans plus tôt. Le château d'Ardis était assez haut perché et la plateforme, d'un acajou toujours luisant, saillait entre 2 pignons 20 mètres au-dessus de l'allée gravillonnée où les voïniks se tenaient au garde-à-vous, pareils à des scarabées rouillés. Daeman se garda bien d'approcher du bord, mais Ada, méprisant le danger, s'y planta pour contempler d'un air mélancolique la vaste pelouse et la forêt dans le lointain.
« Je donnerais tout pour avoir un écumeur en état de marche. Pas toi ?»
lança-t-elle.
« Même si je ne pouvais le garder que quelques jours.
« Pourquoi diable aurais-je envie d'une chose pareille ?» Ada agita ses mains aux doigts longilignes.
Même avec un modèle pour enfant, tu pourrais voler au-dessus de la forêt et de la rivière jusqu'aux collines de l'ouest, passer des jours et des jours loin d'ici, loin de toute plateforme fax.
Pour quelle raison aurait-on envie de faire cela?
Ada le fixa quelques instants. Tu n'es pas curieux? Tu ne te demandes jamais ce qu'il y a dans la nature?
Daeman lissa son manteau comme pour en chasser des miettes de pain. « Ne sois pas ridicule, ma chère. Il n'y a rien d'intéressant dans la nature. Rien que la nature. Pas de gens. Enfin, toutes mes connaissances vivent à proximité d'une plateforme fax. Et puis, il y a des Tyrannosaurus rex dans le coin. »«
Des tyrannosaures? Dans nos forêts? Quelle idée, on n'en a jamais vu dans les parages. Qui t'a raconté cela, cousin ?»«
Toi, ma chère, lors de ma dernière visite, il y a un demi-vin. »
Ada secoua la tête. Ce devait être pour te taquiner.
Daeman rumina cette révélation, repensa à l'angoisse qui l'avait dissuadé de visiter Ardis pendant des années, au tyrannosaure qui avait peuplé ses cauchemars. et se fendit d'un rictus. Ada, apparemment capable de lire dans ses pensées, eut un petit sourire.
« T'es-tu jamais demandé, cousin Daeman, pourquoi les postes ont fixé notre population à 1 million? Pourquoi pas 1 million et 1? Ou encore 999 999? Pourquoi 1 million pile ?»
Daeman battit des cils, s'efforçant de déterminer le lien entre les écumeurs pour enfants de l'ère perdue, les dinosaures, et le chiffre de la population humaine qui n'avait pas varié depuis... eh bien, depuis toujours. Et il n'appréciait pas qu'elle lui rappelle leur cousinage, car il existait une vieille superstition hostile aux relations sexuelles entre membres d'une vieille famille.
« Je suis d'avis que les vaines spéculations comme celle-ci donnent des indigestions, même par une belle journée comme aujourd'hui, ma chère, » déclara-t-il. « Et si nous revenions à des sujets de conversation plus plaisants ?»«
Bien sûr, » fit Ada en le gratifiant du plus doux des sourires. « Allons retrouver les autres invités avant le déjeuner. Et ensuite, nous nous rendrons sur les lieux du moulage. »
Cette fois-ci, elle passa la première pour descendre l'échelle. Le déjeuner eut lieu dans le patio nord, sous l'égide de serviteurs flottants, et Daeman bavarda longuement avec les jeunes convives. L'annonce du fameux moulage avait encore attiré du monde. À l'issue du repas, nombre d'entre eux s'installèrent confortablement sur un sofa ou bien sur une chaise longue, profitant de la pelouse ombragée et se passèrent leur turin sur le visage. Une séance normale durait une bonne heure, aussi Daeman alla-t-il faire un tour à la lisière de la forêt, ouvrant l'œil au cas où apparaîtrait un papillon. Ada vint le rejoindre alors qu'il approchait de la colline.
« Tu ne coiffes jamais le turin, cousin Daeman ?»«
Non, » répondit-il, s'apercevant qu'il se montrait plus hautain qu'il ne l'avait souhaité. « Au fil des ans, j'ai fini par m'habituer à cette chose, mais je ne m'abaisse pas à l'utiliser. »
« Est-ce aussi ton cas, ma chère Ada ?»«
Pas toujours, » répondit la jeune femme.
Tout en marchant, elle faisait tourner au-dessus de sa tête une ombrelle couleur pêche, et la douce lumière parait ses joues pâles d'un éclat splendide.
« Je regarde de temps en temps si l'histoire a avancé, mais je suis, semble-t-il, trop occupée pour devenir dépendante comme la majorité de mes contemporains. »«
On trouve de ces turins partout, dirait-on. »
Ada fit halte à l'ombre d'un grand orme aux branches larges et basses. Elle abaissa son ombrelle pour la refermer.
« Tu as essayé ?»«
Oh, oui, c'était la grande mode entre mes devins. J'ai passé quelques semaines à savourer ces excès. »
Il ne put refouler tout à fait la répugnance que lui inspirait ce souvenir.
« Depuis, je me suis abstenu. »
« Est-ce la violence que tu désapprouves, cousin ?»
Daeman eut un geste mi-chèvre, mi-chou.
« Je désapprouve le caractère artificiel de la chose. »
Ada rit doucement.
« C'est précisément pour cette raison qu'Arman ne met jamais le turin. Vous avez quelque chose en commun, tous les deux. »
Cette idée était si improbable que la seule réaction de Daeman fut de remuer les feuilles mortes avec le bout de sa canne. Plutôt que d'ouvrir une fonction horloge sur sa paume, Ada observa la position du soleil dans le ciel.
Ils ne vont pas tarder à émerger. 1 heure sous le tissu égale 8 heures de galipette.
Ah !
Daeman se demanda si ce cliché avait dans sa bouche une valeur de sous-entendu. Comme toujours, son visage souriant mais quasiment malicieux ne donnait aucun indice.
Cette histoire de moulage, il y en aura pour longtemps ?
Cela doit durer presque toute la nuit.
Daeman sursauta.
Nous n'allons quand même pas camper en pleine nature, au bord de la rivière, par exemple.
Il se demanda toutefois s'il n'aurait pas davantage de chances de séduire la jeune femme en dormant sous les étoiles et les anneaux.
Ceux qui souhaiteront passer toute la nuit sur le site auront la possibilité de le faire,
répondit Ada.
Anna nous a promis du spectaculaire, mais la plupart d'entre nous regagneront le château un peu après minuit.
Y aura-t-il du vin et des boissons sur ce site?
Certainement.
Ce fut au tour de Daeman de sourire.
que les autres goûtent le spectacle.
Lui passerait la soirée à servir à boire à Ada, lancerait la conversation sur le sujet des galipettes, la raccompagnerait chez elle. S'ils se débrouillaient bien, tous deux partageraient un cabriolet du genre étroit, exerceraient sur elle son considérable pouvoir de séduction. Et, si la chance était de son côté, il n'aurait pas besoin de rêver de femme durant la nuit.
En fin d'après-midi, les 20 et quelques invités, certains tout excités par les péripéties vécues ce jour via le Turin, racontaient sans se lasser comment Ménélas avait été blessé par une flèche empoisonnée ou une autre stupidité de cet acabit, furent rassemblés par les serviteurs et conduits vers le fameux site par un convoi de droski et de cabriolets. Ces véhicules étaient tractés et escortés par des voïniks, bien que, songea Daeman, cette mesure de sécurité fut sans doute inutile s'il n'y avait pas de tyrannosaure dans la forêt. Il avait fait le nécessaire pour monter dans le cabriolet de tête avec leur hôtesse, et Ada lui montra les arbres, les buissons et les courants les plus intéressants, tandis qu'il parcourait 3 bons kilomètres sur la piste menant à la rivière. Daeman n'hésita pas à s'étaler sur la banquette de cuir rouge, pourtant assez large pour accommoder son léger embonpoint, et eut droit pour sa peine à un contact avec la cuisse d'Ada qui se prolongea pendant tout le trajet. Leur destination, vit-il, comme ils débouchaient sur un plateau calcaire dominant la vallée, n'était pas la rivière à proprement parler, mais l'un de ses bras secondaires, un petit coin perdu large de quelques centaines de mètres, où l'érosion et les inondations avaient sculpté une large plage sablonneuse sur laquelle on avait édifié un assemblage hétéroclite de poutres, de branches, d'échelles, de gouttières, de rampes et d'escaliers. Daeman pensa à un échafaud, bien qu'il n'en ait jamais vu de sa vie. Des torches étaient fixées à des poteaux plantés dans l'eau, et la structure reposait à moitié sur des pilotis. À 100 mètres de là, coupant le bras secondaire de la rivière proprement dite, se trouvait une île plutôt étroite et envahie de cycas et d'amarantes, d'où montait un vacarme strident dû aux oiseaux et aux reptiles volants qui prenaient leur essor dans une explosion de couleurs. Daeman se demanda distraitement s'il y avait des papillons sur cette île. Sur un talus herbeux surmontant la plage, on avait installé des tentes de soie colorées, des chaises longues et des tables couvertes de nourriture. Les serviteurs s'affairaient autour de ces dernières, survolant parfois les convives qui arrivaient. Comme il suivait Ada qui venait de descendre du cabriolet, Daeman reconnut certains de ceux qui s'activaient sur l'étrange édifice branlant. Anna était juchée en son sommet, un bandeau rouge noué autour de la tête, mettant en place des éléments de la structure. 6 mètres plus bas, ce fou d'Arman, torse nu en nage, la peau étrangement bronzée, soufflait sur un feu contenu dans un réceptacle. D'autres jeunes personnes, sans doute des amis d'Anna et d'Ada, allaient et venaient sur les rampes et les échelles, transportant sacs de sable, branchages ou pierres rondes. Un feu brûlait dans le cœur en argile de l'édifice et des étincelles montaient dans l'air vespéral. Tous semblaient œuvrer dans un but bien précis, mais Daeman ne voyait aucune raison à l'existence de cet assemblage hétéroclite de poutres et de gouttières, d'argile, de sable et de flammes. Un serviteur s'approcha de lui et lui offrit un verre. Daeman l'accepta et partit à la recherche d'une chaise longue et d'un coin d'ombre.
« Ceci est un cubilo », expliqua Anna à l'assemblée plus tard dans la soirée. « Nous travaillons dessus depuis plus d'une semaine, et nous avons transporté les matériaux qui le composent à bord de canoës. Quant aux branches, il a fallu les couper et les tendre pour procéder à l'assemblage. »
Le dîner s'était révélé excellent. Le soleil éclairait encore les hautes collines proches de la rivière, mais la vallée proprement dite était plongée dans l'ombre, et les deux anneaux étincelaient dans le ciel enténébré. Des étincelles jaillissaient vers les anneaux, la fournaise et les soufflets faisaient un vacarme assourdissant. Daeman accepta un nouveau verre, le 8e ou le 10e de la soirée, et en prit un pour Ada, qui le refusa d'un signe de tête avant de se tourner vers Anna.
Nous avons confectionné un panier en bois tressé et recouvert le centre de la fournaise, l'âtre, avec de l'argile réfractaire. Nous avons fabriqué celui-ci en mélangeant du sable sec, de la bentonite et un peu d'eau. Ensuite, Nous avons façonné des boules avec notre boue argileuse que nous avons enveloppées dans des fougères mouillées afin de les empêcher de sécher. Et nous en avons tapissé les parois de la fournaise. Ce sont elles qui protègent du feu l'armature en bois du Cubilo.
Daeman ne comprenait rien à ce qu'elle racontait. Pourquoi construire cette monstruosité tout en bois et placer un feu en son centre si on ne souhaitait pas la brûler?
Il avait échoué dans un asile de fous.
En fait, reprit Anna, nous avons passé le plus clair des derniers jours à nourrir le foyer tout en éteignant les petits incendies causés par la fournaise. C'est pour cela que nous nous sommes installés tout près de la rivière.
Fantastique, marmonna Daeman. Il alla se chercher un nouveau verre pendant qu'Anna et ses acolytes, dont l'insupportable Arman, poursuivaient leur délire, l'épissant de termes grotesques tels que lit de braise, soufflerie, tuyère. Selon Anna, il s'agissait d'une minuscule ouverture dans leur fournaise, près de laquelle la dénommée Aimée s'escrimait sur des soufflets, zone de fusion, moule en sable, trou de coulée et trou de scorie.
Tout cela lui semblait barbare, voire vaguement obscène.
Et maintenant, voyons si ça marche,
annonça Anna d'une voix à la fois exaltée et épuisée. Les convives furent priés de se tenir sur le rivage sablonneux. Daeman bâtit en retraite sur un carré de pelouse près des tables, et tous ces jeunes gens, plus ce satané Arman, passèrent à l'action dans la frénésie la plus totale. Les étincelles bondirent encore plus haut, Anna courut au sommet du fameux Cubilo, pendant qu'Arman scrutait les flammes dans la fournaise aux parois d'argile et ordonnait que l'on fasse ceci ou cela. Aimé s'activa sur les soufflets jusqu'à en tomber d'épuisement, et le dénommé Loès monta la relayer. Daeman écouta distraitement Ada dérouler une nouvelle litanie de détails pour le bénéfice de ses amis massés autour d'elle. Il saisit des termes tels que buse, busillon, scorie refroidie, bien que les flammes fussent plus vives et plus brûlantes que jamais, et explosion. Daeman recula de 4 ou 5 mètres supplémentaires.
Température de coulée 1260 degrés, lança Arman à Anna.
Essuyant son front maculé de sueur, cette dernière procéda à des réglages et fit un signe de tête. Daeman agita son verre et se demanda combien de temps il lui faudrait encore attendre avant de regagner le château d'Ardis en cabriolet avec Ada. Soudain, il perçut une agitation telle qu'il en oublia son verre, persuadé que l'étrange échafaudage allait prendre feu, qu'Anna et Arman allaient brûler comme des fétus de paille. Il se trompait. Anna s'était certes emparée d'une couverture pour étouffer des flammes léchant l'échelle sous le sommet du Cubilo, écartant une nuée de serviteurs et même un Voynix qui s'empressait de protéger les humains, mais Arman, assisté de 2 autres personnes, avait cessé d'attiser la fournaise pour ouvrir un trou de coulée, par lequel un flot de lave jaune rejoignait les gouttières. Quelques convives s'avancèrent, mais les cris d'Anna et la chaleur émise par le métal liquide les obligèrent à reculer. Les gouttières grossièrement taillées se mirent à fumer sans toutefois s'embraser, et le métal rougeoyant coula lentement, achevant sa course dans un moule en forme de croix enchâssé dans le sable. Anna descendit en hâte par une échelle et aida Arman à refermer le trou de coulée. Tous deux examinèrent l'intérieur de la fournaise par un œilleton, s'activèrent sur le « trou de scorie », ainsi l'avait baptisé Ada. Daeman devina que son usage était différent de celui du « trou de coulée ». Puis, la jeune femme et le vieil homme, promis à une mort prochaine, songea Daeman, soudain d'humeur cruelle, descendirent d'un bond sur la plage et foncèrent vers le moule. Nombre de convives les rejoignirent. Daeman se dirigea vers la Seine, attrapant au passage un verre sur un plateau tenu par un serviteur passif. L'air était frais au bord de la rivière, mais la chaleur émise par le moule rougeoyant frappa Daeman en plein visage. Le métal fondu se solidifiait, devenant un objet en forme de croix.
« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Daeman en haussant le ton.
« Un symbole religieux ?»«
Non !»
fit Anna. Elle ôta son bandeau pour essuyer son visage couvert de sueur et de noir de fumée. Son sourire était celui d'une démente.
C'est le premier moulage en bronze réalisé depuis... Combien de temps, Arman? 1000 ans?
Probablement 3000, répondit doucement l'homme. Les convives murmurèrent et applaudirent.
Daeman éclata de rire.
Et à quoi sert-il ?
Arman le fixa du regard, en nage, torse nu. À quoi sert un nouveau-né ?
Précisément ce que je voulais dire, répliqua Daeman. Ça fait du bruit, ça sent mauvais, ça exige toute votre attention, bref, c'est inutile.
Ada serra dans ses bras Anna, Arman et leurs compagnons, comme s'ils avaient accompli une merveille, et Daeman se retrouva ignoré de tous. La masse des convives se dispersa. Arman et Anna remontèrent en haut de leur échafaudage, scrutant l'intérieur de la fournaise grâce aux œilletons et y insérant des barres métalliques comme si la production de lave était encore inachevée. De toute évidence, conclut Daeman, le feu d'artifice allait durer toute la nuit. Pris d'une soudaine envie d'uriner, il se rendit derrière les tables, considéra la tente réservée au lieu d'aisance et décida, dans l'esprit des réjouissances païennes en cours, de satisfaire dans la nature ses besoins naturels. Il monta en haut du talus pour se diriger vers les arbres plongés dans l'ombre, suivant un monarque qui s'était mis à volter autour de lui. Ce spectacle n'avait rien d'extraordinaire, mais l'heure et la saison étaient également tardives pour ce papillon. Passant devant le dernier Voynix, Daeman s'avança sous les branches des ormes et des cycas. Quelqu'un, peut-être Ada, lui lança quelques mots depuis la berge, située à 30 mètres de là, mais Daeman avait déjà déboutonné sa braguette et tenait à rester poli. Plutôt que de se retourner, il s'avança de 5 ou 6 mètres supplémentaires à l'abri des ténèbres de la forêt. Il n'en avait que pour une minute.
Ah,
fit-il, gardant les yeux fixés sur les ailes orangées du papillon au-dessus de lui, tandis que son urine éclaboussait un tronc d'arbre noir. Le gigantesque allosaure, qui faisait 10 mètres de la tête à la queue, jaillit des ténèbres à 30 kilomètres à l'heure, fonçant sans se préoccuper des branches sur son passage. Daeman eut le temps de pousser un cri, mais préféra refermer sa braguette avant de se mettre à courir. C'était un polisson, mais il avait sa pudeur. Il leva sa lourde canne dans l'espoir de faire reculer la bête. L'allosaure referma ses mâchoires sur sa canne et son bras, arrachant ce dernier au niveau de l'épaule. Daeman poussa un cri et pivota sur lui-même dans un geyser de sang. L'allosaure le terrassa et lui arracha l'autre bras, le jetant dans les airs et le rattrapant comme un animal de cirque, puis posa une lourde patte griffue sur son torse mutilé, mais toujours frétillant, et abaissa sa gueule terrible. Tel un chat jouant avec une souris, le monstre déchira Daeman en deux, engloutissant d'un seul coup sa tête et la moitié de son torse. Côte et colonne vertébrale finirent broyées dans son gosier. Puis il s'attaqua aux jambes et au bassin, projetant des lambeaux de chair un peu partout. On entendit le bourdonnement d'un fax, tandis que deux Voynix se ruaient sur le dinosaure pour le tuer.
« Oh mon Dieu !»
s'écria Ada. Elle fit halte à la lisière de la forêt, alors même que les Voynix achevaient leur sanglante besogne.
« Quel gâchis !» commenta Arman, qui fit signe aux autres convives de ne pas s'approcher. « Tu ne lui avais pas dit de rester à l'intérieur du périmètre défini par les Voynix ? Tu ne lui avais pas parlé des dinosaures ?»«
Il m'a demandé s'il y avait des tyrannosaures dans les parages !»
dit Anna, une main toujours plaquée sur sa bouche.
« Je lui ai répondu que non !»«
Eh bien, c'est la vérité. »
Derrière eux, le creuset continuait de rugir et de lancer des étincelles vers le ciel, gagné par les ténèbres.